venga peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ses chroniques hebdomadaires dédiées à celui dont on dit qu'il est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes.
Oui, tout à l'heure tu as dit « plus belle conquête de l'homme », mais c'est aussi peut-être le contraire. C'est aussi la conquête du cheval qui rend les hommes ravis et qui est important.
C'est réciproque Jean-Yves, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est tout à fait réciproque. Un cavalier sans cheval ou un cheval sans cavalier, ça ne le fait pas. Alors, on va commencer par prendre le cheval au mot, c'est notre petite habitude. Alors aujourd'hui, le mot « martingale ». Alors, martingale serait probablement issue vers 1491 du provençal Martegallo, féminin de Martegal, c'est-à-dire les habitants de Martigues.
Pas très loin de Marseille.
Voilà, cette petite ville à l'embouchure de l'étang de Berre, comme tu le dis, près de Marseille. On parle à cette même époque de chausse à la martingale, dont les ponts, c'est-à-dire l'ouverture, étaient absurdement placés non pas devant, mais derrière, sur les fesses.
Voilà pourquoi la martingale fait partie du harnachement des cavaliers de Camargue.
Des cavaliers de Camargue, oui, et souvent...
Ils sont tous martingalés.
Ils sont tous martingalés. Alors c'est sans doute par analogie, Jean-Yves, que cette disposition un peu absurde, donc la martingale, signifie le harnachement en forme de reine que l'on fixe à la sangle du cheval et qui souvent rejoint au moyen de deux anneaux les rênes de l'animal, ou ça peut être une simple courroie, par exemple, comme la martingale de Camargue. Et de sorte... les rênes, ce sont des rênes un peu absurdes en fait.
Mais c'est inverse. Ça fait
voilà, et à l'inverse, au lieu de passer par-dessus le cheval, passe en dessous de lui en fait. Oui. Donc c'est vrai que c'est un petit peu...
L'action se fait à l'envers.
L'action se fait à l'envers, exactement. Alors je crois que tu n'es pas un fanat des enrênements, toi Jean-Yves.
Mais moi je suis pour la main. Je pense que c'est la main qui compte, et puis que quand la main est savante et qu'elle a du tact, on n'a pas besoin d'enrênement.
Voilà, oui, je pense que tu as raison, mais enfin bon, c'est vrai qu'on voit souvent des chevaux martingalés, comme tu dis, et des fois on se dit que c'est un petit peu dommage. Alors je crois que tu as un texte à nous lire, Jean-Yves.
Ah ben, puisqu'aujourd'hui, c'est surtout les Cosaques, et que les Cosaques se sont illustrés par la voltige qu'ils ont gardée de tradition et qu'ils ont ramenée en France. Oui, j'ai un texte. Né de l'estin et de la fierté des peuples cavaliers, pour lesquels le combat était aussi un jeu, la voltige sur ligne droite est avant tout une équitation de guerre. École de hardiesse et d'agilité, elle a forgé les tempéraments des écuyers de la guérinière à nos jours. Alliance de l'équilibre et de l'audace, la voltige est un défi qui, des joutes du Moyen-Âge à nos jours, s'inscrit dans la tradition chevaleresque. C'est une succession de ruses de guerre, audacieuses et acrobatiques, cavaliers simulant la mort, traînés par leurs chevaux, surgissant de sous leur ventre, en chargeant debout pour mieux surprendre et impressionner l'adversaire. Si la voltige fait de l'équitation en art martial, elle fait aussi du voltigeur un cavalier en état de grâce, qui connaît l'ivresse particulière de la libération du corps dans un accord total avec son cheval.
Eh bien, écoute, ce texte dit exactement ce qu'il faut dire.
Ben oui, les Cosaques vivaient avec leurs chevaux, et donc je pense que ça résout bien un peu le tempérament, et ça résout bien un peu leur façon de vivre avec les chevaux.
C'est vrai, comme tous les grands peuples cavaliers, puisqu'on le verra là, les Cosaques, effectivement, c'était un grand peuple cavalier. Alors justement, on va voir un petit peu ça. Dans un beau livre intitulé « L'habit du cheval », Christian Tavard relate une conversation qu'un mandarin chinois aurait eue vers 1912 avec le général russe Krasnov. Alors, ce mandarin dit à Krasnov, les limites de l'Empire de Russie sont sur la selle des Cosaques. Presque tous les grands hommes de guerre russes ambitionnent de vivre avec les Cosaques, de servir avec eux ou encore de les commander. Alors, peu de peuples...
C'était des gens d'action avec qui on aimait faire la guerre. Pas contre eux, mais avec eux.
Mais avec eux. Et effectivement, on le verra, on les a bien intégrés aussi. Alors, peu de peuples cavaliers ont su forger si intensément dans notre imaginaire collectif cette représentation quasi mythique de l'idéal du combattant à cheval. Si le Cosaque a fasciné les chefs militaires européens, Napoléon les avait pris à son service dans la Grande Armée, par exemple. Ouais, des écrivains russes comme Tolstoï, Pushkin, Gogol, Lermontov ou encore Tcholokov. Des peintres comme les Français Karl Vernet, Lermontov ou encore Karl Vernet, Théodore Géricault, Gustave Doré ou Édouard de Taille. Mais également des musiciens comme Liszt et Tchaïkovski en donnèrent une image empreinte de respect et de gloire. Malgré tout, les Occidentaux prirent longtemps les Cosaques pour des sortes de soudards, peu raffinés, grands buveurs, ce qui, en passant, franchement, Jean-Yves, n'est pas entièrement faux.
C'était la vodka, je crois, leur liqueur préférée.
Oui, puis plein de trucs qu'ils fabriquaient eux-mêmes, avec des recettes secrètes, quoi. Il fallait être Cosaque estampillé pour pouvoir déboucher le bouchon. Mais ce sont aussi des cavaliers magnifiques, courageux, qui ont nourri bien des rêves et des fantasmes dans une population qui les vit camper sur les Champs-Élysées après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815. Effectivement, les Cosaques sont venus jusqu'à Paris et ont campé sur les Champs-Élysées. Et ces cavaliers mythiques, les Parisiens les ont vus et ont été stupéfaits de voir ces gens-là. Alors le nom Cosaque vient du turc Kazakh, qui signifie dans cette langue mongolo-tartare, un brigand vagabond, autrement dit un homme libre. Ça veut dire un homme libre, un Cosaque. Les Russes, quant à eux, les ont longtemps appelés les Volnitsa, qui veut également dire homme libre. Donc aussi bien les uns que les autres ont bien vu ce caractère d'homme libre. Un petit peu comme les samouraïs, hein, la dernière émission aussi qui était, en fait, ces samouraïs errants étaient au fond des hommes libres aussi, quelque chose, qui allaient proposer leur service à tel ou tel noble, tel ou tel grand noble, mais qui au fond décidaient de ce qu'ils allaient vouloir faire. Hein. Alors, leur origine est encore discutée, parce qu'il y a eu tellement de migrations qu'on ne sait pas trop, mais enfin, on commence à y voir un petit peu clair.
Ils n'étaient pas des descendants de Gengis Khan?
Alors, pas exactement, mais presque, Jean-Yves, t'es pas loin de la cible.
Parce que l'équitation est un peu semblable.
Voilà, t'es pas loin de la cible. Alors, selon certains historiens, ils seraient les descendants des Petcheneg, un peuple d'éleveurs semi-nomades du Turkestan. Donc, tu vois, hein. À la fin du 9e siècle, ils viennent s'installer dans un premier temps en Asie centrale, le long du cours de la Volga, ce grand fleuve russe, hein. Et puis, alors, ce sont des fleuves à la dimension des États-Unis, de l'Amérique ou justement de la Russie, c'est-à-dire des fleuves qui peuvent faire 2-3 kilomètres de largeur.
Ah, hein, oui,
c'est pas le Rhône. Alors au 15e siècle, fuyant l'impôt et l'enrôlement militaire décrété par les Turcs, une partie d'entre eux migrent dans la région des deux grands fleuves d'Asie méridionale, le Don et le Dniepr, qui sont vraiment là encore deux artères très très importantes. Ils s'organisent en communauté militaire quasi autonome sous la direction d'un chef élu, le chef est élu, qui s'appelle Letman, c'est le nom qu'il leur donne. Alors ces différentes migrations les font se mélanger avec les populations slaves, dont ils adoptent la langue, c'est-à-dire le russe, et la religion chrétienne, c'est-à-dire le christianisme orthodoxe. Mais ils restent en marge du pouvoir des tsars. Alors là, ils font bien attention, hein, les Cosaques ici.
Ils sont un peu indépendants.
Voilà, les tsars à Moscou. Ils fondent de grands domaines dans lesquels ils élèvent des chevaux et se constituent peu à peu en nation entre le XIIIe et le XVe siècle, après avoir repoussé les armées mongoles de la fameuse Horde d'Or, mise en place par Gengis Khan à la fin du XIe siècle. Alors c'est, d'une certaine façon, les Gengis Khan qui les ont amenés jusque-là, et eux qui, une fois installés, repoussent les dernières invasions, non plus de Gengis Khan, qui est mort depuis longtemps, mais des successeurs de Gengis Khan, dont la fameuse Horde d'Or. Et alors, ils gardent en fait un symbole, un emblème guerrier mongol, puisqu'au fond, ils ont été mongolisés en quelque sorte, qui est attaché, qu'ils attachent à la hampe de leur drapeau, qu'ils appellent le Bouchouk, et qui est une queue de cheval.
Oui.
Comme les Mongols attachaient effectivement des queues de cheval à leurs enseignes, à leurs fanions. Alors les trois principales nations sont les Cosaques du Don, les Cosaques Zaporog et les Cosaques de Dniepr. Les premiers finissent par reconnaître la suzeraineté du tsar Ivan IV, dit le Terrible, et contribuent à sa conquête du Khanat en Sibérie en 1582. Néanmoins, l'Hetman Ivan Mazepa, Hein. Gouverneur de l'Ukraine se range en 1708 du côté des Suédois contre la Russie. Donc les Cosaques vont un petit peu de l'autre côté et attaquent un petit peu la Russie. Alors battu, Mazepa meurt l'année suivante. Il inspire à Franz Liszt un poème symphonique. Hein. La légende de Mazepa a été reprise aussi il y a quelques années par l'écuyer et metteur en scène Bartabas.
Bartabas, oui.
Voilà, dans un grand spectacle équestre, hein, qui a eu énormément de succès, il faut le dire. C'était quelque chose de très beau. Alors, les Cosaques participent également à deux grandes révoltes paysannes dans les régions du Don et de l'Oural au XVIIe et au XVIIIe siècle, particulièrement celle menée par le chef Cosaque Emelian Pougatchev en 1774, ce qui leur vaut de voir les franchises qui jusque-là garantissaient leur indépendance supprimées par la tsarine. Catherine II. Catherine II dit maintenant, vous commencez à me trotter sur le popotin. Les franchises terminées. Alors, le dernier Hetman est donc chef des Cosaques, est destitué en 1764 et les Cosaques sont définitivement intégrés à l'armée russe. Donc, voilà, leur indépendance est militaire en tout cas, a vécu. Ils restent toutefois propriétaires de leur domaine et continuent à élever des chevaux. Et on verra que c'est important parce que ce sont de grands éleveurs de chevaux. Alors nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission après une pause musicale. Aujourd'hui donc c'est Cesaria Evora, la diva aux pieds nus qui nous a quittés le 17 décembre dernier. Le titre de la chanson c'est « Petit pays ».
Nasceu, põe um estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só vacimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem orna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar boiou areia que canta molhar. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Au début du XXe siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale, les Cosaques possédaient plus de 1 250 000 chevaux. Ils purent fournir à l'armée du Tsar, au début des hostilités, donc le début de la guerre de 14, 62 régiments, 171 bataillons indépendants à cheval, 24 bataillons à pied, donc des fantassins, et une batterie d'artillerie. Bon, là, ça devait prendre 4 chevaux à peu près pour tirer un canon. Mais enfin, bon, c'était quand même un sacré cheptel. Alors, la façon de monter du cosaque, comme son harnachement, sont issus en droite ligne de l'équitation militaire et de chasse des peuples mongols. Le cavalier, comme son cheval, savent tirer parti des conditions particulièrement rudes de la steppe. Le cosaque sait traverser les rivières et les fleuves avec son cheval sans mouiller sa selle ni son paquetage. Alors son truc, il fabrique un petit radeau avec des roseaux secs qu'il attache à la queue ou à la crinière de son cheval. Dessus, il y installe sa selle et ses différentes affaires dans ses armes. Il se jette à l'eau avec son cheval qu'il tient et dirige par la longe du licol. L'un nageant à côté de l'autre, ils arrivent à traverser les fleuves les plus larges. Et donc, les fleuves les plus larges en Russie, c'est 3-4 kilomètres de largeur.
Ah, ça fait
c'est
beaucoup.
C'est pas la Yule. Hein.
Ça fait beaucoup.
Alors, le cheval est élevé et sélectionné avec soin, selon des critères bien précis. Le cosaque le veut avant tout résistant. Il l'élève en plein air, partout les temps, donc l'animal n'a pas de boxe, hein, il ne rentre jamais, il n'a pas d'écurie. L'animal donc doit pouvoir supporter aussi bien les températures torrides de l'été, assaillies par des nuages de thym et autres moustiques, des tabans, je crois on dit en occitan, hein. Le thym c'est le taban, oui, hein, c'est ça le bête qui pique. Hein.
C'est un peu la même démarche que les Indiens.
Tout à fait, oui. Et il doit aussi affronter le froid glacial de l'hiver et les longues pluies ininterrompues du printemps. Alors, une chose particulière, quand le cavalier revenait avec son cheval en hiver, mais vraiment, il peut faire moins 50 hein, dans la steppe sibérienne, le cheval était fumant, évidemment, trempé. Il lui versait des grands seaux d'eau sur le cheval, ensuite, il le bouchonnait.
Sur le dos et sur le rein.
Pour le rendre, et pourtant, il faisait moins 40, moins 50. Mais il faisait cette façon-là.
Donc. Ici, on fait une friction à l'alcool à brûler.
Une friction à l'alcool à brûler, oui. Et donc, l'hiver, donc, très froid, évidemment, et les longues pluies ininterrompues du printemps aussi, qui rendaient vraiment le terrain, la steppe, un véritable bourbier. Alors, le cosaque ne privilégie pas sa vitesse, la vitesse du cheval, mais son fond, sa rusticité. Et ça, les cosaques le disent, nous, on veut pas des chevaux rapides, on veut des chevaux
résistants.
Ils préfèrent un cheval plutôt lent, mais régulier, quel que soit le terrain, et capable de parcourir de longues distances, ça fait qu'encore le ressort de livrer bataille ou de chasser au terme du voyage. Les longues distances, ça peut être 80, 90, 120 kilomètres.
Des chevaux d'endurance,
exactement. Et c'est la raison principale aussi pour laquelle le cheval monte avec ses étriers très courts, donc les étriers sont courts, un peu à la façon des jockeys. En effet, la semelle des étriers n'atteint pas le bas-ventre du cheval, hein. C'est vraiment monte jockey. Le cosaque estime en effet qu'étriver court permet de ne pas gêner la respiration du cheval. C'est oui. Son idée à lui. Alors, la selle cosaque est creuse et assez fortement relevée à l'avant et à l'arrière. Sur le siège est placé un épais coussin de cuir rembourré de laine de mouton, ou parfois de laine de cheval, il faut bien dire. Sa forme générale ressemble à une sorte de trèfle à quatre feuilles. Il est fixé au moyen d'un surfait qui passe entre les deux sangles, qui maintient l'arçon sur le cheval. Le cavalier est ainsi placé assez haut, ce qui lui permet de diriger son cheval pratiquement qu'avec le poids du corps, par des ruptures d'équilibre d'avant en arrière et de droite à gauche. En fait, souvent même les rênes sont attachées au pommeau, ils s'en servent pas. Et contrairement, c'est comme la plupart des équitations de travail, le mort ne sert en fait qu'à arrêter le cheval.
Pour tirer à l'arc et tout.
Donc les rênes, voilà, exactement. Alors contrairement aux selles mongoles, issues elles-mêmes de selles chinoises, la selle cosaque est peu décorée, alors que les selles chinoises et selles mongoles étaient vraiment très 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 décorées. Et comme pour le cheval qui doit être rustique, la selle aussi doit être rustique et solide. Elle doit aussi être facile à réparer, donc on s'en encombre pas.
Elle est efficace mais sobre.
Efficace mais sobre, voilà. C'est vraiment de la selle d'extérieur, d'endurance, de bataille. Alors essentiellement guerrier, le cosaque apprend tôt à monter à cheval. Les premiers mots que le petit garçon apprend sont « tchou », monter à cheval, ça veut dire monter à cheval, et « pou », ça veut dire tirer. Donc voilà, c'est peut-être pas avant maman, mais enfin peut-être c'est le troisième et quatrième mot qui ou le deuxième et le troisième mot qui l'apprend. Alors ses premiers cadeaux sont un arc et des flèches, un fusil, un sabre large et court, ainsi qu'un solide poignard dont le manche fait un angle avec la lame droite. Moi j'en ai ramené un de la province des monts de l'Oural, où effectivement c'est une espèce de grand poignard, mais qui est légèrement, tu vois, tu as le manche et la lame qui n'est pas dans le prolongement du manche, mais qui fait un léger crochet. Et ce sont des sacrées lames, ça coupe très bien.
Mais comme tous les peuples cavaliers, les enfants montent très 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 trop à cheval. Et comme certains peuples cavaliers aussi, l'accouplement se faisait à cheval.
À cheval, voilà. Alors les femmes aussi étaient d'excellentes cavalières, mais leur rôle consistait surtout, en plus des travaux domestiques, à s'occuper des chevaux. D'une certaine façon, alors je rigole un peu si des Cosaques nous entendent qui viennent pas me sabrer, si le Cosaque a été assez imaginatif dans l'art d'utiliser le cheval et de faire évoluer sa pratique équestre, et ça c'est vrai, il l'a fait, il est resté très traditionnaliste dans la gestion de l'économie familiale. C'est un peu, bon, Ivanova, dépêche-toi de bouchonner le cheval, car j'aimerais bien manger tôt ce soir. Voilà, ça c'est un peu le Cosaque.
Oui, mais chez les Arabes, c'est un peu pareil aussi. Hein. C'est la femme qui était à la disposition. C'était à la disposition du cheval.
Tu crois que c'est que chez les Arabes chez les Cosaques, je pense que c'est malheureusement un petit peu plus répandu. Alors, à lire et à voir pour en savoir plus. Donc, 4 livres, Les Cosaques de Léon Tolstoï, le livre de poche aux éditions Gallimard, toujours de Tolstoï, également chez Gallimard, la nouvelle intitulée Le cheval, tiré du recueil Maîtres et serviteurs. La fille du capitaine d'Alexandre Pouchkine, au livre de poche chez Gallimard. Enfin, évidemment, Taras Bulba, le roman incontournable de Nicolas Gogol. Alors, la leçon de l'écuyer, Jean-Yves, partir du galop au pied ferme. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Mais ça veut dire qu'il faut partir, arrêter, le cheval ramener et rassembler. Et il est capable de partir au pas, la transition normale, au trot sans passer par le pas, et au galop sans passer ni par le pas, ni par le trot. Donc, il part de pied ferme dans l'allure du galop, et il peut revenir de l'allure du galop à l'arrêt de pied ferme. Voilà.
D'accord.
Alors, on peut partir au galop à droite et au galop à gauche.
Au galop à droite et au galop à gauche, absolument. Voilà, c'est cela, tout à fait. Alors, le dicton de la semaine, il est de Xénophon, hein, le général de cavalerie grec de l'ancien temps, de la Grèce antique. Alors, il dit, dans la mesure du possible, il est préférable de descendre du cheval à l'endroit où on l'a fait travailler.
Oui, mais Xénophon a dit de très très belles choses, et notamment qu'il faut que le cheval se plaise dans son air. Mais il faut qu'il se plaise aussi également dans l'endroit où il travaille. Donc il faut que ce soit pour lui un jeu, et que ce soit facilité, et non pas de la peine tout le temps. Parce que sinon, eh bien, au bout d'un certain temps, trop de peine, il va fuir cet endroit et ne pas vouloir y rentrer. Donc il faut qu'il s'y plaise, et pour ça, eh bien, il faut le mettre dans des conditions de plaisir.
Alors très très rapidement, Jean-Yves, Élise nous dit que quand elle veut sauter avec son cheval, ça va très bien, elle prend le cheval bien dans sa... Elle met le cheval déjà bien devant l'obstacle, elle le prend bien dans les jambes, elle se met en suspension légère, et puis quand Lutin arrive devant l'obstacle, pof, il pile, et puis de pied ferme, il saute en faisant une espèce de cabriole, et alors elle aimerait bien le transformer en saucisson, parce que 3 fois sur 4, elle va rouler par terre. Alors, Jean-Yves, t'as 2 solutions, soit tu donnes à Élise une nouvelle recette de saucisson, sinon tu, en 2 mots, lui dis ce qu'il faut faire.
Non, ma religion m'a interdit, moi, de donner des recettes de saucisson, mais par contre, je vais dire à Élise que c'est peut-être elle qui a oublié de demander et de solliciter son cheval quand elle l'a senti se refroidir un peu pour l'obstacle. Donc il fallait le stimuler un peu et lui donner envie de passer de l'autre côté, en regardant de l'autre côté, en voulant y aller soi-même aussi.
Et peut-être de s'asseoir 3 ou 4 foulées avant la barre.
Pour monter le cheval.
Pour monter le cheval. Merci Jean-Yves. Donc tant pis pour les saucissons. C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure, 12h35, et même adresse pour de nouvelles chroniques sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche de Rouer 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! est un combat. Ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey. Marche droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, sur la route du ciel, d'aigle morte à Rhodes, en passant par Salmiège, du langue d'Otorouègue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézoux, Salmiège, milieu du sel. Patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du roi de Rhodes, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la route du sel.